Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger, a dit Christ dans Matthieu 11, verset 28. 30. Je trouve ces paroles très encourageantes, qu'il est bon, au travers de toutes nos épreuves, de pouvoir nous appuyer sur les paroles de notre Sauveur. La Pâque et les fêtes dans la fête des pains sans levain sont maintenant derrière nous, et nous avons hâte de célébrer la Pentecôte, qui aura lieu dans un peu moins d'un mois. Que ces fêtes sont significatives et chargées de sens. Que nous sommes bénis d'avoir un Sauveur. Et j'espère qu'au travers des difficultés, des épreuves et de la tristesse qui nous afflige souvent, nous sommes en mesure de voir briller la lumière au fond d'un tunnel sinistre, souvent et bien noir dans la vie. Nous sommes tous à une dure école, dans un entraînement intensif pour un poste très important dans le royaume. Ne laissons pas les difficultés du moment, y compris nos conflits internes dus à cette nature humaine, nous détourner de l'objectif. Nous n'avons des comptes à rendre qu'à Dieu et non pas à des humains. Tant que nous faisons notre part, nous pouvons avoir la paix, même si les humains nous désapprouvent. Il y a de l'espoir. En dépit de tout le négativisme qui nous environne, j'espère que nous gardons les yeux sur notre Père céleste et sur Christ. Car un dessein magistral est en cours d'accomplissement ici-bas, dont nous sommes déjà les héritiers bénéficiaires. J'espère que nous ne laissons à personne le soin de nous ravir notre joie. Je pense à ce que Christ a dit dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16 et le verset 20, Jean chapitre 16 et le verset 20. Jean 16, 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. C'est ce qu'il dit à ses disciples à son époque et c'est un peu ce qui se passe pour nous aussi. Vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est entré dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. J'aime cette expression, nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus de rien. En vérité, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Nul ne vous ravira votre joie. Verset 22. J'aime ce passage, j'aime ce petit bout de phrase. Et je pense que nous pouvons tous dire la même chose, en dépit des difficultés qui nous assaillent. Eh bien, si nous faisons notre part, nous pouvons vivre en paix. Si les gens nous critiquent, même des proches, même parfois des membres, cela n'a pas d'importance si nous faisons notre part. À nouveau, nous n'avons des comptes à rendre qu'à Dieu et non pas à des humains. Et nous savons pourquoi Christ est sorti de Dieu, comme il le dit ici. Nous avons un sauveur et que nul ne nous ravisse notre joie, comme nous le lisons au verset 22. Nous devrions être les plus positifs des hommes, peu importe les frustrations, les déceptions, les épreuves, les malentendus, les chicaneries qui nous assaillent. Nous avons un sauveur et son retour est pour bientôt. Nous sommes tous dans la dernière foulée, le dernier tour de piste. Peu importe les brimades, les injustices, les mauvais traitements, le royaume approche. Ne laissons personne nous ravir notre couronne et ne laissons personne nous ravir notre joie. L'adversaire se frotte les mains quand il nous voit désunis, quand il nous voit succomber à ses supercheries, tomber dans ses pièges. Mais il est lui-même séduit. Quand il a essayé de détruire l'humanité dès le départ que le péché est entré dans le monde, le besoin d'un sauveur s'est avéré capital. L'une des prophéties les plus inspirantes se trouve au début de nos Bibles, en fait dans le livre de la Genèse. Elle concernait Christ, qui allait venir pour tout arranger. Tout arranger. Rappelons-nous que tout va s'arranger. Reportons-nous ensemble à la toute première prophétie messianique, mais commençons par situer le contexte. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à Genèse chapitre 3 et le verset 1. Genèse chapitre 3 et le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Elle commence déjà à changer la donne, n'est-ce pas ? De peur que, c'était pas de peur que, c'était vous mourrez, n'est-ce pas ? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle expérimenta. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il semble que, soudain, elle ait commencé à voir les choses différemment, n'est-ce pas ? Elle prit de son fruit, en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et lui, il ne dit rien. Il dit, oh bon, on y goûte, tu goûtes, ça n'a pas l'air de faire grand-chose, j'y goûte aussi. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et on voit déjà que le poison du venin du serpent agit déjà. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Intéressant. Ils ne s'étaient certainement jamais cachés jusqu'à ce moment-là, mais là, ils se cachèrent. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? » Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête ? Qu'est-ce qui t'a appris que tu es nu ? Satan avait déjà envenimé leur esprit. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Dieu savait très bien que c'était le cas, mais il lui pose la question quand même. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Mais j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et maintenant, le verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il s'agit là de la première prophétie sur le Messie et de la prophétie dont l'accomplissement est le plus long, environ 7000 ans. Quand nos premiers parents péchèrent, le besoin d'un sauveur devint évident. Il allait y avoir inimitié ou haine entre le serpent et les humains, la postérité de la femme. Satan, dès le départ, n'a cessé de haïr les êtres humains et n'a cessé depuis lors de tout faire pour les détruire. Christ, 4000 ans plus tard, s'adressant aux pharisiens qui avaient accepté la mentalité et les attitudes du diable, déclara « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Satan est un meurtrier. C'est sa nature, c'est sa philosophie, pourrait-on dire. Il y a donc toujours eu inimitié entre lui et la femme dont est issue l'humanité entière. Et Satan est aussi l'ennemi. C'est un autre terme dont se sert la Bible. C'est lui qui sème l'ivraie. Et nous avons de l'ivraie parmi nous, toujours. Il y en a toujours eu, nous. Nous les voyons quelquefois plus qu'à d'autres moments, mais il y a de l'ivraie parmi nous. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Satan est aussi l'adversaire. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Satan est l'adversaire, notre adversaire. Cette inimitié, cette haine que Satan a pour les êtres humains provient de son désir de saboter le plan divin qui consiste à conduire à la gloire beaucoup de fils. Il y a même une traduction qui dit une multitude de fils. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ou une multitude de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dans cette prophétie remarquable de Genèse 3,15, qu'on appelle aussi le proto-évangile, puisqu'il annonce déjà l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu dès la chute d'Adam et Ève, la postérité de la femme représente Christ, son plus illustre descendant par Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à ses postérités, mais comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité qui est Christ. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, nés sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». La tâche de Christ, le Messie prophétisé, comportait divers aspects qui allaient le placer en conflit direct avec Satan. Christ est la lumière. Il révèle la vérité divine. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Satan, lui, n'est que ténèbres. Il aveugle l'humanité. La mission de Paul était d'ouvrir les yeux aux païens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tandis que Satan cherche à détruire tous les humains, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, en les conduisant dans la voie qui mène à la mort. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Christ dirige les humains vers la justice. Maintenant, en dehors de la loi ou mis à part la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, sous-entendu Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Christ, beaucoup seront rendus justes, justifiés. Soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Satan, lui, fait tout ce qu'il peut pour pousser l'humanité à se vautrer dans le péché et dans la méchanceté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'inimitié entre Satan et Christ était évidente quand Satan chercha à disqualifier Christ, de son rôle de sauveur et de Messie au début de son ministère terrestre. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan connaît les Écritures très bien, il sait les citer, mais pas toujours à bon escient, n'est-ce pas? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah, tu avais oublié celle-là? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et là, c'en a été trop, probablement, pour Christ. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Dieu a prévu de faire entrer dans sa famille les êtres humains, de conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Mais pour cela, il faut que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu, que nos péchés soient pardonnés grâce au sacrifice parfait de Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour être justifiés, nous devons commencer par nous repentir de nos péchés. Nous faire baptiser, accepter Christ comme notre Sauveur, notre Roi à venir. Recevoir l'imposition des mains d'un vrai serviteur de Dieu et recevoir ainsi le Saint-Esprit qui nous donne la force de passer à l'étape suivante. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon, ou pour le pardon de vos péchés, est une meilleure traduction, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Cela se passe fil des siècles jusqu'à notre époque. Et il faut ensuite que nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante par lui, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme qui a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Christ est ressuscité. Nous serons ressuscités. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Satan a essayé de saboter les plans divins. L'inimitié entre lui et Christ a culminé lors de deux événements précis. Satan a certes blessé le talon de la postérité d'Ève, Christ. Toutefois, il l'a seulement temporairement éliminé. Mais il n'a pas pu le détruire. Christ fut crucifié et mourut, mais ayant accompli sa mission avec brio, sans jamais pécher, et il ressuscita et il vit. Il vit. Le sacrifice de Christ faisait partie des plans divins. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Satan fut en partie responsable de la trahison de Christ par Judas. Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Le règne angélique, et c'est donc Satan, orchestra toute la crucifixion, n'est-ce pas? Le règne angélique auquel appartient Satan ne peut pas pleinement comprendre la profondeur du plan de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous qui vivons en ce 21e siècle, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Satan, qui est aveuglé par son orgueil, pensait pouvoir saboter le plan divin. Après sa première tentative visant à supprimer Jésus dès sa naissance, sa deuxième attaque fut de tenter Christ dans le désert. Ayant là aussi échoué, n'ayant pas réussi à faire pécher Jésus, Satan orchestra la mort horrible de notre Sauveur par crucifixion. La mort de Jésus représentait la blessure au talon prophétisée dans Genèse 3,15. Bien que Jésus soit mort pendant 3 jours et 3 nuits, il fut néanmoins ressuscité par le Père. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute dominion, de toute autorité, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ, notre Sauveur, notre frère aîné, les prémices des prémices du plan salut, du plan de salut divin, vit maintenant, éternellement. Siégeant à la droite du Père, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. La prophétie de Genèse 3,15 fait allusion à la blessure au talon de Christ par Satan. Christ n'a été que blessé et non détruit. Bien qu'étant mort, il est cependant ressuscité et accomplit le plan divin destiné à détruire tout compte fait la mort elle-même. Le dernier ennemi qui sera détruit ou réduit à l'impuissance, c'est la mort. Il a été prophétisé que Christ écrasera la tête de Satan. Il s'agit du sort final de Satan. Le meilleur moyen de tuer un serpent est de lui écraser la tête. La Bible se sert de cette analogie pour nous révéler le sort final de Satan. Contrairement à l'attaque de Satan contre Christ, qui ne l'a éliminé que pendant 3 jours et 3 nuits, L'écrasement de la tête de Satan sera une blessure mortelle. Mortelle dans ce sens qu'il va être définitivement mis hors d'état de nuire. Il ne pourra plus influencer qui que ce soit par ses mensonges, ses supercheries et sa méchanceté. Ce qui est ironique, c'est que la mort, que par la mort de Christ, orchestrée par Satan, puis sa résurrection, les pouvoirs de Satan vont être détruits. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous pouvons nous réjouir de ce que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il s'agit ici de l'écrasement de la tête de Satan. Dans Apocalypse 20, versets 1 à 3 et les versets 10. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où avaient été jetés la bête et le faux prophète. Bonne traduction. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Le sort final de Satan va être la cessation définitive de ses activités, de ses pouvoirs, de sa capacité à influencer qui que ce soit par ses mensonges, sa méchanceté. La Bible se sert de l'expression « victime expiatoire » ou « propitiation », « propitiatoire » ou « expiation » selon les versions à propos du sacrifice de Christ, pour nos péchés. D'après l'Écriture, l'amende du péché, c'est la mort. Nous savons, Romains 6, 23, « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vécut sans jamais péché. » Par sa mort, il a payé l'amende encourue par nos péchés afin de nous permettre de recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Reportons-nous à Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. La grâce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est un don qui nous vient de Dieu grâce à sa gentillesse, son amour, sa miséricorde. Il est question de cette victime expiatoire dans des passages comme Romains 3, 25. Romains 3, 25, où il est écrit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Hébreux chapitre 2, verset 17, Hébreux chapitre 2 et le verset 17. Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Cela a été décidé à partir de cette prophétie magistrale de Genèse 3, 15. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il a été décrété à cette époque-là que nous aurions besoin d'un sauveur. Nous avons ce sauveur. L'apprécions-nous? Semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que c'est qu'être humain. Il est passé par là. Christ est passé par là. Il est devenu homme. Il a subi les mêmes choses que nous, et même bien pire. Incroyable. Incroyable. 1 Jean chapitre 4, verset 10. 1 Jean chapitre 4 et le verset 10. Jean chapitre 4, verset 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et cela me dépasse et cela nous dépasse totalement. Que cet être extraordinaire qui était auprès du Père soit venu sur terre, risquer sa vie éternelle, venir pour nous sauver. Quel amour incroyable! Ça nous dépasse totalement. Nous autres humains, avec nos chicanes, avec nos jalousies, avec nos méchancetés, c'est difficile d'imaginer quelqu'un comme cela, n'est-ce pas? Imaginez notre Dieu. Quel être extraordinaire! Le Père est un être extraordinaire, le Fils est un être extraordinaire. Tous deux sont un Dieu extraordinaire. L'adjectif propitiatoire, qui signifie qui a pour but de rendre propice, évoque la miséricorde divine, comme c'est le cas dans Hébreux 9, 5. Je ne m'y reporterai pas, mais il est écrit au-dessus de l'arche, étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le même mot original grec est traduit par le mot propitiatoire, un substantif. Il est ici question de la partie recouvrant l'arche de l'Alliance, symbolique du trône de Dieu, qui est source de miséricorde. Et vous et moi, nous avons besoin de cette miséricorde divine. Nous sommes loin encore d'être parfaits. Hébreux 4, 10. Hébreux chapitre 4 et le verset 10. Hébreux chapitre 4 et le verset 10. Je vous ai donné aujourd'hui une synope, en quelque sorte. J'ai lu un certain nombre de passages sans vous donner les versets, mais c'était nécessaire. Cela fait partie du dessein de ce message. Vous savez, il est bon parfois d'écouter simplement, plutôt que de tourner les pages et être occupé à trouver le passage. Il est bon parfois d'écouter ce qui est dit, d'écouter ce qui est écrit. Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Secouru dans nos besoins. Bien que les termes propitiation ou victime expiatoire ou expiation ne fassent généralement pas partie de notre vocabulaire, ils expriment l'amour et la grâce infinie de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ, qui ont pourvu un sacrifice permettant à nos péchés d'être pardonnés et nous permettons de recevoir le don du salut. Qui était cet homme? Qui était ce sauveur? Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, a écrit dans son Histoire ancienne des Juifs, traduction française de l'original grec par Arnaud d'Andilly, je cite, « En ce même temps était Jésus qui était un homme sage, et si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non seulement de plusieurs ou de nombreux juifs, mais de plusieurs, à nouveau nombreux, une meilleure traduction, de nombreux gentils. C'était le Christ. Des principaux de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'abandonnèrent pas après sa mort. Il leur apparut vivant, ressuscité le troisième jour, comme les saints prophètes l'avaient prédit, et qu'il ferait plusieurs autres miracles. C'est de lui que les chrétiens que nous voyons encore aujourd'hui, c'est à nouveau Joseph, l'historien Joseph qui écrit cela, c'est de lui que les chrétiens que nous voyons encore aujourd'hui ont tiré leur nom. Et incidemment, une remarque est faite en bas de page prouvant l'incrédulité de l'auteur, de celui qui traduit cela, mais cela n'engage que lui. Dans le passage ci-dessus, écrit peu après la crucifixion, Joseph non seulement fournit un puissant témoignage de l'existence de Jésus-Christ, mais il corrobore de nombreux événements s'étant produits au cours de sa vie. Joseph qualifie Jésus d'homme sage, et il se demande si l'on peut vraiment dire que Jésus était simplement un homme. Tant ses œuvres étaient admirables, pour reprendre ses mots. Le fait qu'un historien juif non chrétien de l'ère apostolique parle des miracles de Jésus comme reconnus tend à apporter une certaine crédibilité à la Bible, n'est-ce pas? Joseph confirme les écrits de Joseph ou Josephus, confirme les écrits du Nouveau Testament selon lesquels Jésus fut condamné à être crucifié par Ponce Pilate sous l'instigation du Sanhédrin juif, des principaux de notre nation, comme il le dit, pour reprendre ces termes. Et l'historien reconnaît en outre que Jésus a accompli de nombreuses prophéties. La traduction d'Arnaud d'Andilly n'est pas très bonne, mais comme elle est connue, je la cite. Je traduis personnellement l'avant-dernière phrase comme suit. Je n'ai pas trouvé sa traduction formidable. Il leur apparut vivant de nouveau le troisième jour, comme l'avaient annoncé les divins prophètes, comme avaient aussi prédit 10 000 autres choses merveilleuses le concernant. Vous savez, les traducteurs, ils ont leurs petites idées quelquefois. Alors, ils disent pas d'accord, d'accord, pas d'accord, mais ce n'est pas lui qui a écrit le livre. Pour Flavius Joseph, la résurrection du Christ semble être un fait historique. Le fait que Joseph, un non-chrétien ayant vécu peu après le Christ, ait déclaré « c'était le Christ » est plutôt remarquable. Sans doute eut-il l'occasion de s'entretenir avec des personnes ayant connu Jésus ou ayant été témoins de ses miracles. D'autres sources romaines séculières confirment ce qu'a écrit Flavius Joseph. Celsus, un écrivain de l'Empire romain opposé aux chrétiens, a écrit au IIe siècle, je cite, « C'est grâce à la magie, évidemment c'est son idée à lui, c'est grâce à la magie qu'il, Jésus, était capable d'accomplir les miracles qu'il semble avoir accomplis. » Wilken, « The Christians as the Romans saw them », page 98. Cet ennemi du christianisme reconnaît à contre-cœur la réalité des miracles de Christ. Pour lui, bien entendu, ces miracles auraient été des tours de magie. Un autre auteur romain, Quadratus, entre 117 et 134 de notre ère, je cite, « incitait les gens à croire en Jésus, les effets de ces miracles se faisant encore sentir, des gens ayant été guéris ou étant ressuscités et plusieurs étant encore vivants de nos jours. » Eusèbe, l'histoire de l'Église, 4, 3, 2. L'historien romain connu, Tacite, qui écrivit à propos des chrétiens quelques décennies après la mort de Christ, a déclaré ce qui suit. Néron rejetait la faute de l'incendie de Rome sur une classe haïe pour ses abominations. C'est son idée, c'est ça, son opinion. Une classe connue pour ses abominations, appelée chrétien par la populace, et lui infligeait les tortures les plus raffinées. Christ, d'où est tiré leur nom, subit le pire des châtiments sous le règne de Tibère, aux mains de l'un de ses procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malveillante, c'est son opinion, qu'on a pour le moment réussi à stopper, se répandit non seulement en Judée, la première source de tous les maux, mais aussi à Rome, où tout ce qu'il y a d'hideux et de honteux dans le monde entier fait son nid et devient populaire. C'est Tacite qui écrit cela dans les annales de la Rome impériale, deuxième partie sur l'incendie de Rome. Eusèbe de Césarée, historien chrétien connu, l'écrivain grec chrétien, 265-340, qui travaillait dans la bibliothèque laissée par Origène à Césarée, auteur d'ouvrages apologétiques et de la première synopse du Nouveau Testament, il est surtout le père de l'histoire religieuse, chronique ou canon chronologique de l'histoire universelle, histoire Ecclésiastique, Petit Robert 2, édition de 1989. Je suis certain que vous avez noté tout cela, c'est secondaire. D'après l'Encyclopédia Britannica, Eusèbe était l'un des plus grands érudits de son temps. Sa réputation provenait surtout de son grand savoir et de sa sagesse. Il est surtout connu pour son histoire de l'Église chrétienne, achevée en 324 ou début 325 de notre ère. Et Eusèbe écrit ce qui suit dans son histoire ecclésiastique. Quand le roi Abgar, roi d'Édesse, une ville de la Mésopotamie du Nord, le monarque brillant et prospère des peuples de la Mésopotamie, fut mourant, étant atteint d'une terrible maladie que personne ne pouvait traiter, et qu'il étant l'entendit parler d'à maintes reprises du nom de Jésus et du témoignage unanime de ses miracles, il lui envoya un message porteur d'une humble requête manuscrite, le suppliant de le soulager de sa maladie. Donc le roi Abgar écrivit à Christ. L'extrait suivant de la lettre du roi Abgar à Jésus provient des écrits d'Eusèbe. Abgar à Jésus, qui est apparu comme un sauveur miséricordieux dans la région de Jérusalem, salut. J'ai entendu parler de toi et de tes guérisons que tu accomplis. Si ce que j'entends dire est vrai, tu redonnes la vue aux aveugles et fais marcher les boiteux, tu purifies les lépreux et ressuscites les morts. Ma conclusion est que, ou bien tu es Dieu et es descendu du ciel pour accomplir ces choses, ou bien tu es le Fils de Dieu les accomplissant. En conséquence, je t'écris pour te supplier de venir me voir, peu importe le dérangement, et de me guérir du mal dont je souffre. J'ajoute que je suis au courant du mépris que les Juifs éprouvent à ton égard et du fait qu'ils cherchent à te faire du mal. Ma ville est très petite, mais a une très bonne réputation et est adéquate pour nous deux. Et d'après Eusèbe, la réponse suivante fut envoyée par Jésus lui-même, par un messager nommé Ananias. Voici la réponse de Jésus dans son entier. Béni es-tu de croire en moi sans m'avoir vu ? Car il est écrit de moi que ceux qui m'ont vu ne croiront pas en moi, alors que ceux qui ne m'ont pas vu croiront et vivront. Pour ce qui est de ta demande que je vienne vers toi, je dois accomplir tout ce que je devais faire lors de ma venue ici, et cela fait être enlevé vers celui qui m'a envoyé. Après mon ascension, je t'enverrai l'un de mes disciples pour guérir ton mal et t'accorder la vie à toi et à ton entourage. Et Eusèbe déclare avoir lui-même vu cette correspondance entre le roi Abgar et notre Seigneur et l'avoir traduite de la langue syriaque. Cette correspondance devait être vieille d'environ 300 ans quand Eusèbe en prit connaissance dans les archives royales d'Édesse. Incidemment, toujours d'après Eusèbe, les archives d'Édesse révélaient qu'après la mort et la résurrection de Jésus, Thaddée, mentionné dans Marc 3, 18, fut envoyé à Édesse par l'apôtre Thomas. Une fois sur place, non seulement Thaddée aurait guéri beaucoup de sujets du roi Abgar, mais il aurait aussi personnellement imposé les mains à cet homme. Le roi aurait ordonné à ses sujets de s'assembler et d'écouter la prédication de Thaddée, lui offrant de l'argent et de l'or, ce que Thaddée aurait refusé. Le roi aurait déclaré à Thaddée: J'ai cru en lui, Jésus, à tel point que j'ai voulu prendre une armée et détruire les Juifs qui l'ont crucifié, ce que j'aurais fait si j'en avais pas été dissuadé par la puissance impériale de Rome. Intéressant toutes ces choses, n'est-ce pas? Il y a des preuves, un certain nombre de preuves que notre Sauveur est venu. Les preuves ne manquent pas finalement, mais vous et moi, nous savons ces choses, nous avons la foi. Il y a bien d'autres choses qui nous prouvent notre Sauveur, n'est-ce pas? Beaucoup de Juifs au premier siècle de notre ère savaient que le Messie devait apparaître. Cela avait été annoncé à plusieurs siècles auparavant par le prophète Daniel, par exemple. Daniel 9, versets 21 à 27, Daniel 9, verset 21. Que nous sommes bénis d'avoir un Sauveur. Est-ce que nous nous rendons compte de ce privilège, de cet amour divin? comme je dis, moi, ça me dépasse encore. C'est difficile d'imaginer tout cela. La grandeur de notre Dieu. On n'a pas les mots humains qu'il faut pour décrire tout cela. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront établis, mais en des temps fâcheux. Ensuite, verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura plus de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, etc. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette prophétie, appelée communément la prophétie des 70 semaines, fait l'objet d'un article que nous avons sur notre site, donc je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais ici, l'arrivée du Messie avait été prophétisée aussi de manière très précise. Daniel déclara sous l'inspiration divine qu'il s'écoulerait exactement 69 semaines prophétiques depuis l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'apparition du Messie. Pour comprendre cette prophétie, il importe donc de savoir combien de jours il y a dans 69 semaines prophétiques. Étant donné qu'il y a 7 jours dans une semaine, si l'on multiplie 7 jours par 69 semaines, on obtient 483 jours. Et prophétiquement parlant, un jour étant égal à un an, il est donc question de 483 années prophétiques. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de déterminer quand le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem fut promulgué. Alors, il y avait 3 décrets distincts qui avaient été donnés, promulgués à l'époque. Un en 536, l'autre en 457 et l'autre en 444 avant notre ère. Néanmoins, le décret principal sur lequel s'applique la prophétie dite des 70 semaines est, de l'avis de la plupart des historiens, celui de 457 avant notre ère. Alors, la date à partir de laquelle les 70 semaines devaient être comptées, celle du décret à rebâtir Jérusalem, 3 décrets furent promulgués, on prend celui de 457, et un simple calcul nous indique l'année de l'apparition du Messie. Si l'on compte 483 ans à partir de 457 avant notre ère, on obtient l'an 27 de notre ère. Et souvenons-nous qu'il n'y a pas d'année zéro. Il ne s'agit pas de la naissance de Christ, mais de son apparition en tant que le Messie prophétisé dans cette grande prophétie, cette prophétie remarquable au début de l'humanité dans Genèse 3:15. Alors, il ne s'agit pas de l'année de la naissance de Christ, mais du début de son ministère. Cette prophétie des 70 semaines révèle que le ministère de Christ allait durer une semaine, c'est-à-dire 7 ans, mais que le Messie serait retranché au milieu de la semaine. Daniel 9, 27. Et il y a plusieurs versions. En d'autres termes, son ministère terrestre durerait la moitié d'une semaine prophétique, soit 3 ans et demi. Et c'est ce qui s'est produit. Il est précisé dans l'évangile de Luc que Jésus avait environ 30 ans quand il débuta son ministère. Luc 3, 23. Et à partir de ce détail, il est facile de déterminer l'année de la naissance de Jésus. Christ ayant débuté son ministère en l'an 27 de notre ère, 30 ans en arrière nous ramène à l'an 27, ou l'an 4 avant notre ère, plus exactement. Alors Jésus naquit donc en 4 avant notre ère et débuta son ministère terrestre en l'an 27. Et il fut crucifié en l'an 31. Alors il y a toutes sortes de preuves qui existent. Vous et moi, nous savons plus ou moins ces choses. À nouveau, si vous voulez davantage de détails sur cet article, nous avons un article sur la signification de cette prophétie ici. Cette prophétie. Frères et sœurs, nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, un merveilleux sauveur. Que personne ne vous ravisse votre joie. Et que personne ne vous ravisse votre couronne. La prophétie de Genèse 3,15 s'accomplit encore. Et elle va continuer de s'accomplir jusqu'à ce que le dernier être humain à être changé en être spirituel soit entré dans la famille divine. Gardons les yeux sur Christ, notre merveilleux Sauveur et frère aîné. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.